Rebonjour. Ce matin, j'ai dit bien des choses, puis peut-être un peu éparpillées, puis échevelées, mais je vais vous ajouter deux choses simples à retenir. Comment le royaume de Dieu se fait plus proche de nous? Comment le vivre concrètement? Je vais vous citer deux textes bibliques qu'on a dans la liturgie. Le premier texte, c'est un texte tiré du prophète Michée. Vous ne connaissez pas, moi non plus, je ne le connaissais pas beaucoup. Mais le prophète, les gens demandent, mais le bon Dieu, là, comment est-ce qu'on est capable de le satisfaire? C'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est parce qu'on va offrir des bœufs, des sacrifices, et puis ou bien si même on va offrir son propre fils, comment est-ce qu'on est capable de satisfaire le bon Dieu? Et puis voici qu'est-ce que le texte de Michée dit. « Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi, rien d'autre que... » Alors, ça veut dire, c'est important, rien d'autre que... Rien d'autre que pratiquer la justice, rien d'autre que aimer la miséricorde, rien d'autre que marcher humblement avec ton Dieu. Il me semble que ça résume tout, hein? Rien d'autre, seulement, rien que pratiquer la miséricorde, rien que aimer la miséricorde, pratiquer la justice, aimer la miséricorde. C'est une drôle de formule, aimer la miséricorde. Il me semble que la miséricorde, c'est d'aimer, mais aimer la miséricorde, ça veut dire d'être accueillant et ouvert, hein? Et la troisième chose, marcher humblement avec ton Dieu. Il me semble que ça résume un peu et ce que Jésus veut qu'on soit, puis comment on peut faire que le royaume de Dieu est proche de nous, des gens qui sont autour de nous. Ça, c'est la première lecture qu'on avait, en fait, dans le mois de juillet. L'autre lecture, c'est Jésus. C'est à l'occasion de Jésus qui marche dans les champs et puis avec les apôtres prennent du blé, le mangent, et les pharisiens disent « Ah, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, c'est pas vrai, parce que le jour du sabbat, il ne faut pas faire ça. » Et puis Jésus donne deux exemples qu'au fond, dans l'Écriture, on a fait des choses qui n'étaient pas permises, puis entre autres, il dit « Le jour du sabbat, les prêtres, au fond, ils font du travail. » Donc, ils ne respectent pas la norme. Puis là, le Seigneur ajoute une phrase, et moi j'ajoute un petit peu quelque chose à la phrase. La phrase commence ceci, « Si vous aviez compris. » Moi je dirais, « Ah, si vous aviez compris ce que veut dire cette parole. » C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Au fond, ça revient un peu à la phrase de précédente, hein? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est des sacrifices? Non. Si vous aviez compris ce que veut dire si vous aviez compris ce que veut dire, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Et Jésus ajoute, si vous l'aviez compris, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Alors, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont fait aucune faute. C'est un peu comme si c'était un appel, au fond, à choisir la miséricorde, c'est-à-dire de ne pas condamner ceux qui sont autour de nous. On va voir un tas de choses, puis on va dire, ah, mais ils n'ont pas le droit de faire ça, ou c'est pas permis, ou c'est péché, ou quoi. Ah, si vous aviez compris que c'est pas ça qu'il faut faire. Si vous aviez compris que c'est la miséricorde que moi je désire, ben moi j'ai l'impression que en vivant ça, vous faites que le royaume de Dieu est plus proche. Bon, c'est pas trop compliqué tout ça, non? Maintenant je vais vous parler ce qui avait été un petit peu prévu pour l'après-midi. Je vais vous parler d'Haïti. Je vais vous parler d'Haïti. D'abord, je vais commencer par quelque chose qui me rend triste, mais je vais achever par quelque chose qui me rend heureux. Ce qui me rend triste, c'est d'abord et la réalité politique du pays. Le président Martelly a été élu il y a 3 ans. C'est un chanteur, il n'y avait aucune expérience en politique. Et puis, au fond, il faut le dire, c'est un mauvais président. Un mauvais président. Vous savez, le président, il a une responsabilité, entre autres. La responsabilité, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le Parlement et des gens qui sont dans le Sénat, un peu comme ici au Canada. Et puis, les lois sont votées au Parlement et sont votées au Sénat. Les deux s'entendent, voici les lois. Mais les lois ne sont effectives que si le président les signe. Il y a eu des lois qui ont été votées, puis des lois, ça fait 2 ans, qui ne sont pas signées, des lois qui ne sont pas mises en application, qui sont, c'est un peu comme si ça ne marchait pas. Entre autres, il devait y avoir des élections pour des sénateurs. Il y a 30 sénateurs, il y a 10 divisions, 10 départements. Donc, c'est 3 sénateurs par département, et à tous les 2 ans, on renouvelle les sénateurs, donc pour 6 ans. Mais ça fait 2 ans qu'il devrait y avoir des élections pour nommer pour élire les sénateurs, puis ils n'ont pas été capables de s'entendre. Donc c'est un pays qui est paralysé. Au cours du mois de novembre et puis aussi en janvier, il y a eu une équipe de médiation qui a été formée, entre autres par autour du cardinal Chibli. Il n'était pas cardinal quand il a été nommé, ça, mais c'est le président. Puis les gens, ils ont dit, oui, on aimerait qu'il y ait une conciliation, une médiation. Donc, ça a été organisé, une médiation. Et là, ce groupe-là a rencontré à peu près tout le monde. Et puis les gens, ils sont entendus sur des choses essentielles, les plus importantes. Et une chose importante, c'était que le président, qui est élu depuis 3 ans, ben on va lui permettre d'achever son terme. Parce qu'il a été élu avec 60% des voix. Donc, élu démocratiquement, légalement, et puis c'est entendu. Donc, la chose qu'on doit accepter, c'est que le président va finir son terme. Et puis, il y avait d'autres choses qui ont été suggérées, qui ont été acceptées par la majorité des gens, des sénateurs, des partis politiques et des sénateurs. Sauf, il y a des gens qui disent, il est tellement un mauvais président qu'il ne peut pas finir son terme. Donc, il faut bloquer tout ce qui vient de la part du président. Et puis, exiger sa démission, et sinon, faire un mouvement populaire pour qu'il démissionne. Hélas, c'est pas nouveau en Haïti. Il y a très peu de présidents ou de premiers ministres qui ont fini leur terme. Aristide, 2 fois qui a été mis à part. 2 fois. Puis, mais d'autres fois, les présidents sont tués, ou sont kidnappés, ou sont obligés de quitter. Sauf les 2 derniers mandats du président Préval, qui était avant, qui ont été achevés. Mais c'est un peu comme si une tradition, une mauvaise tradition en Haïti, ben, quand un président ne fait pas l'affaire, on le dégomme, on le tue ou on l'envoie ou quoi. Et puis, tu avais un petit groupe de sénateurs qui réclamait ça absolument. Mais la médiation continuait, et puis, mais tout le monde voulait avancer, sauf ce petit groupe-là. Puis entre autres, avancer sur, ben là, il faudra faire une élection, non pas avec le président. Lui, on va lui permettre de finir son terme, mais pour tous les autres, les 20 sénateurs, en fait, ça serait 20 sénateurs, et puis tous les députés. Et puis, il avait été prévu, en janvier, que les élections auraient lieu au mois d'octobre, parce que ça prend du temps pour préparer des élections en Haïti. Ça prend 6 mois et tout ça. Mais avant de faire des élections, il faut s'entendre qui va être responsable des élections, ce qu'on appelle chez nous le comité électoral. Qui compose le comité électoral? Et puis le président a proposé des noms, puis les sénateurs dissidents ont proposé. Et ils n'ont pas été capables de s'entendre. Ils se sont rencontrés. Finalement, encore, les sénateurs dissidents et puis le président sont pas capables de s'entendre pour des élections qui devraient avoir lieu au mois d'octobre, qui auraient dû avoir lieu. Donc, à la fin de l'été, c'est comme avant, pas d'élection. Donc, un système politique qui est bloqué. C'est triste. Et les jésuites qui sont avec moi, ça les désole beaucoup parce que c'est leur propre pays, leur peuple. Mais c'est la réalité. On ne sait pas comment ça va débloquer. Au niveau, il y a eu tremblement de terre. Les maisons, un grand nombre de maisons se sont effondrées. Des édifices du gouvernement effondrés, les ministères, le palais national et puis la cathédrale et des églises. Bon, sur ce point-là, ça avance beaucoup. Les premières constructions qui ont été refaites, c'est des commerces. Faut pas s'en étonner. La première année, on construit des commerces. On les appelle là-bas des marquettes. C'est des petits supermarchés, des fois des plus gros supermarchés. Mais un marché chez nous, c'est les petites madames qui sont sur le bord de la rue et puis qui vendent leurs carottes et puis leurs choux et puis leurs vêtements et puis les souliers et puis tout ce que vous voulez. C'est ça le marché. Quand on s'en va au marché, c'est là. Mais au marché, il faut apprendre à négocier. Moi, un blanc, si je vais au marché, mais j'y vais pas, c'est bien sûr qu'ils vont m'en demander beaucoup plus cher. J'étais allé au marché avec pour accompagner un Haïtien, puis lui, il connaissait les gens, ça fait plusieurs années. Et puis, parce que j'étais là, les marchands demandant plus cher que ce qu'ils demandaient auparavant, puis lui avait l'habitude, non, c'est pas comme ça, puis là, ça avait l'air à bloquer, fait que là, il s'en allait ailleurs, puis pour aller voir d'autres marchands, puis là, la première marchande dit, non, c'est bien. Il faut apprendre à négocier dans le marché. Ça fait partie de la culture, je dirais pas simplement haïtienne. Il y en a qui ont dit, en Égypte, c'est comme ça chez vous, et puis en Afrique, c'est comme ça. Si vous allez dans un market, ben là, sur les produits, il y a des codes-barres, et puis il y a des caisses. Juste pour dire que les premières constructions, ça a été les marchés, les markets plutôt, et après ça, les écoles. Les premières, suite après le tremblement de terre, on a construit des écoles avec des abris temporaires en bois, et puis bon. Mais dans les années qui ont suivi, ils ont construit des écoles en dur, comme on dit, en permanence. Donc ça s'est monté, puis il y a beaucoup d'écoles qui sont là, beaucoup d'écoles qui ont été reconstruites par des communautés religieuses. Les sœurs sœurs de Marianne, les sœurs de Sainte-Anne, eux ont fait application. Il y a eu un concours, c'était des gens de l'Asie, c'est-tu du Corée ou il y a un concours, on est prêt à vous financer l'école. Répondez aux conditions, et puis et les sœurs de Sainte-Anne ont participé, puis ont gagné. Mais c'était financé par des bouddhistes. Alors là, ils ont une belle maison, une belle école, grande. En fait, il faut dire que ces sœurs-là, c'était des sœurs très compétentes, mais ils ont gagné. Il est paradoxal, hein? C'est des sœurs, des bouddhistes qui ont payé le relèvement d'une école des sœurs de Sainte-Anne. Beaucoup d'autres communautés, les sœurs de Saint-François d'Assise. Donc, maintenant, ce qu'on va repousser, c'est les édifices du gouvernement, les ministères du gouvernement, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation. Tous ces ministères étaient là, tombés. Et non seulement eux autres, non seulement les édifices, mais beaucoup aussi de fonctionnaires. Alors c'est pour ça que quand les édifices sont effondrés, et tous les dossiers, ou beaucoup des dossiers sont perdus, puis que beaucoup de fonctionnaires ne sont plus là, c'est pour ça que ça prend du temps pour relever. Donc, non, on est en train de voir des édifices du gouvernement monter. Vous allez dire, oui, mais le Palais national... Ah, mais le Palais national a quelque chose de sacré, si on peut parler comme ça. C'était le grand symbole du pays. Un beau Palais national, blanc et... effondré. Pendant 2 ans, tout ce qu'on a vu, c'est simplement des ruines comme ça. Et au bout de 2 ans, ils ont accepté enlever complètement les ruines. Mais avant de construire le Palais national, il faut savoir quoi reconstruire. Est-ce qu'on va reconstruire comme avant? Beau, mais ça serait comme avant. Mais aujourd'hui, on est à un autre moment. Puis qu'est-ce que ça serait un édifice neuf, moderne, fonctionnel, qui représente le pays? Alors, il y a des concours au niveau international. Pour ça que ça prend du temps. Et puis, si c'est beau, ça va être financé, vraisemblablement, par l'aide internationale. Donc, il ne faut pas se surprendre que le Palais national ne s'est pas reconstruit. Je ne dirais pas que ça va être la dernière chose, mais ça va être... quand ça sera construit, les Haïtiens vont être fiers. Mais il ne faut pas construire une petite quétaine, quelque chose de quétaine. Hein. Je dirais un peu la même chose par rapport à la cathédrale. Beaucoup d'églises, une dizaine d'églises se sont effondrées. Toutes sont encore effondrées, puis quand elles sont effondrées, il faut enlever tous les débris, puis déblayer. Alors, les églises de remplacement, c'est des églises temporaires, en fait, c'est même pas des édifices, c'est des abris contre la pluie, contre le soleil, mais capables d'accueillir peut-être 1000 personnes. C'est là qu'ont les grandes célébrations, les funérailles de grands personnages, c'est dans cet endroit-là, les ordinations, c'est dans cet endroit-là. Et, mais je dirais, c'est beau ça, parce qu'il y a quelque chose d'un peu camping. Il y a des portions de personnes qui sont protégées contre le soleil parce qu'elles sont proches des arbres. Puis... Donc, il y a une simplicité qu'on n'a pas dans un édifice tout fait, peut-être avec toutes les techniques, mais il y a quelque chose de beau. Bon, donc, il y a une dizaine d'églises qui sont effondrées, la cathédrale. Les premières églises à être reconstruites sont à la veille de l'être, financées par les évêques américains. Mais encore, les évêques américains nous disent, ben là, si vous voulez construire quelque chose, présentez-nous des plans, dites-nous combien ça va coûter. Puis bon, ben ça prend un peu de temps pour... La cathédrale, c'est un peu la même chose que le Palais national. Il y a des démarches, des concours internationaux, j'ai vu une esquisse. Mais là aussi, c'est un symbole. On peut pas construire n'importe quoi. Donc, moi, je comprends que ça prend du temps pour la cathédrale. C'est pas parce qu'ils sont pas vides ou paresseux. Il faut penser. Il faut penser quelque chose de beau, quelque chose qui sera, je dirais, le symbole de la nation ou le symbole de l'Église actuelle d'Haïti. Juste un petit aussi, au niveau politique, social, il y a... les policiers canadiens aident beaucoup à former les policiers haïtiens. Et ça, c'est important parce que les policiers haïtiens, c'est eux autres qui assurent la responsabilité actuelle. Il y a aussi une force internationale qu'on appelle la MINUSTA. C'est une force de stabilisation, comme on dit. C'est pas une force qui va intervenir pour combattre, mais c'est une force avec des chars... tout blanc, et puis on voit les soldats avec leur arme. Ils n'utilisent pas leur arme, mais quand il y a un point chaud, oups, il va y avoir une manifestation. Les camions s'en vont là, les soldats sont là. S'il y a quelque chose des troubles, vraiment, c'est la police qui intervient, c'est la police nationale, les Haïtiens qui vont intervenir pour présenter faire procéder à la justice. Mais la force internationale est là, importante, parce que à l'intérieur d'Haïti, tu as toutes sortes de groupes, et entre autres, des groupes qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont de la drogue. Alors, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux avoir des armes. Et la force, la MINUSTA, sont là pour, on peut comme dissuader. Si vous voulez faire troubler ou perturber, et perturber, ça pourrait être même tuer le président, hein? Ça peut aller là. Or, si vous voulez, nous autres, on va vous dissuader. Donc, il y a une possibilité de violence, et à certains moments, il y en a. Les gens disent, écoutez, là, on parle de la violence en Haïti, puis c'est vrai, il y a des kidnappings, puis il y a des... mais on parle de la violence, là. Mais si vous comparez aux pays comme le Mexique ou des pays sud-américains, il y en a beaucoup moins en Haïti. Est-ce qu'il y en a plus qu'au Canada? Plus, certainement, il y en a plus à New York qu'en Haïti, qui sont plus nombreux. Donc, ça, c'est aussi parmi les points sombres, mais en même temps, il y a quelque chose de bien maintenu. On pourrait dire que dans la majorité des cas, on est en sécurité. Quand je suis arrivé, il y a une dizaine d'années, en 2004, juste avant avant le départ d'Aristide, on entendait des coups de feu, parfois loin, parfois proche. Bon, mais je vais vous parler de quelque chose qui est beau. Je vais vous parler de l'Église d'Haïti qui est belle. Bon, ce que je veux dire de l'Église d'Haïti, l'Église catholique, je dirais aussi pour l'ensemble des Églises. L'Église catholique, les Anglicans, les catholiques et les Anglicans sont très proches l'un de l'autre. Les évangélistes, ça c'est parfois un peu plus... un peu différent, un peu plus difficile avec eux. Et l'Église du septième jour. Mais ces églises-là ont des écoles de qualité et souvent des centres de santé, des dispensaires qui apportent, au fond, l'aide au peuple haïtien. Le gouvernement est très absent de l'éducation. Je pense que les écoles publiques, c'est 20% des écoles ou des écoliers qui vont... 20% de la population. Tout le restant, c'est des écoles privées. Parmi les écoles privées, il y a des écoles confessionnelles, chrétiennes, catholiques et tout ça. C'est la même chose au niveau de la santé. La présence de l'État est très déficiente. Et les communautés, les églises ont monté quelque chose de telle sorte qu'on pourrait dire l'ensemble des églises, c'est peut-être l'institution ou les institutions les plus crédibles. En même temps, les plus permanentes et les plus crédibles. Mais je vais vous parler de l'Église catholique d'une façon spéciale. Avec les Anglicans, c'est très très proche. Il y a des religieuses anglicanes qui se font accompagner spirituellement par des jésuites. Quand il y a une cérémonie à la cathédrale, l'évêque anglican est invité. Il y a une place un peu spéciale dans le sanctuaire. Il ne participe pas à la concélébration, mais il est là. Il y a comme une sorte de parenté. Il faut dire que la liturgie anglicane est très proche de la liturgie catholique. Les évangélistes sont plus, on pourrait dire, tumultueux parce qu'ils sont très agressifs contre l'Église catholique. Et entre autres, ils vont dire « Marie, ça n'a pas de place, ça n'a pas de chance, ça va... » C'est pas sa place, et puis vous avez évidemment le pape, la papauté. Et très souvent, il y a des discussions dans le peuple, montées dans un tap-tap, puis là, il y a une discussion, c'est un catholique et puis un protestant ou un pentecôtiste, là, puis qui est-ce que c'est Marie, ça n'a pas de bon sens, et puis. Puis de fait, l'Église catholique a quelque chose à apprendre de ces évangélistes, pas tellement dans leur agressivité, que dans leur référence à la Bible. Vous voyez le dimanche matin, les gens qui se promènent avec leur Bible, fièrement. C'est un peu comme leur fierté ou leur symbole. Ils s'en vont étudier la Bible. Mais l'Église catholique va développer, vous le savez bien, d'autres aspects. Certainement, on a négligé l'Évangile, la Bible, mais il y a toute la liturgie. Toute la liturgie. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est pour moi tellement évident. Un prêtre qui part ici, le dimanche, qui célèbre une messe dans une église où il y a 40 personnes ou 60 personnes, où il y a une personne en avant qui fait chanter, mais elle est seule à chanter, et qui arrive un dimanche ordinaire là-bas, dans une paroisse, et puis là, l'église est pleine, il y a des familles, des enfants, et puis il y a une chorale de jeunes qui est là, qui fait chanter, et quand les gens chantent, ils chantent par cœur, bien souvent parce qu'ils connaissent les gens par cœur, les chants par cœur, il y a une dynamique. C'est une fête pour un prêtre québécois qui va là. C'est un peu comme s'il découvre qu'est-ce que c'est la vraie animation, la vraie joie, la vraie... Ben oui, c'est ça. On est heureux d'être ensemble. Juste pour vous donner un exemple, une liturgie, là. Un prêtre qui rentre, il y a un chant d'entrée, évidemment. Il y a une entrée solennelle avec ses servants de messe. Et la chorale qui est là, Dans une paroisse, il y a quatre groupes ou cinq groupes qui font l'animation de la parole. Une fois, ça va être le groupe qui s'appelle la chorale. L'autre groupe, ça va être le groupe qui s'appelle le Mège, c'est un groupe de jeunes. Et puis l'autre groupe, ça va être le Kiro. Et puis l'autre groupe, ça va être les scouts. Mais chaque groupe, ils sont capables, chaque groupe est capable d'animer la messe. Et ils le font avec beaucoup de sérieux, avec leur répertoire propre. Et donc, on rentre un chant. Et puis après ça, c'est le Kyrie. Puis après ça, c'est le Gloria. Et puis après ça, les lectures. Le prêtre parle. Vous savez, une homélie de 10 minutes, pour eux autres, ça ne vaut pas la peine. C'est pas assez long. Il faut que ce soit plus long, parce que c'est un peuple oral qui entend les choses moins par la lecture que par les paroles. Donc, quelqu'un qui veut faire une bonne homélie, il faut que ce soit un 15 minutes, un 20 minutes. Bon, après ça, je pense qu'il commence à. Les gens commencent à dire que ça peut être un peu long. Surtout s'ils ne parlent pas de Jésus. Parce que ça peut arriver que les prêtres vont parler de la politique. C'est arrivé dans l'histoire récente, il y a une vingtaine d'années, où les prêtres faisaient beaucoup de politique. Ça a amené un désastre dans l'Église. Aristide, c'était un prêtre qui a fait de la politique et ça a été un désastre. Bon, je reviens à ma messe avec une homélie. Après l'homélie, on chante aussi le Kyrie, le credo. Et puis à l'offertoire, il y a parfois une procession d'entrée, puis avec un chant qui accompagne la procession d'entrée, la consécration, le chant et tout ça. Mais pour vous donner une différence, il y a quelques jours, on parlait dans les messes ici, au baiser de paix. Est-ce qu'on peut donner la main? Puis la question posée, c'est est-ce qu'on peut, on doit donner la main? Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est tout mêlé, le Saint-Sacrement, le corps du Christ est là, puis là, tout d'un coup, il y a le barda, tout le monde se sépare. Puis qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Et puis, semble-t-il que la législation ici, la suggestion, c'est le prêtre va donner la main à ceux qui sont autour, et les gens, les fidèles, vont donner la main à ceux qui sont autour, et ça ne dure pas longtemps, puis après ça, on est bien recueilli. Là-bas, c'est pas comme ça. Le baiser de paix ou le baiser de paix, c'est important parce que c'est la fraternité et c'est un chant. On va chanter avec 3 ou 4 couplets le chant sur la fraternité, sur l'amour, sur le partage, sur ça. Et à ce moment-là, dans l'Église, il y a un brouhaha, on va saluer le grand-papa ou l'ami, puis tout le monde, et comme prêtre, on descend en bas, moi je descends en bas, saluer les enfants, et les personnes âgées qui sont dans les premiers bancs, et les personnes en fauteuil roulant, puis après ça on revient. Quand on revient, puis là on finit le chant, puis tout est calme, ça va être la communion, un chant encore. Quand la communion est faite, le prêtre nettoie les calices, les ciboires. Le prêtre s'assoit. C'est un autre chant. C'est l'action de grâce. Et puis après ça, c'est l'envoi. Mais je ne sais pas si vous prenez conscience que le chant peut être un moyen de communication. On parle de nouvelle évangélisation. Les gens qui ont chanté, qui retournent à la maison, ils retournent avec toutes sortes de ritournelles, de phrases. C'est, me semble, qu'une sorte d'évangélisation du cœur. Je trouve que ça, c'est de la participation à la messe, à quelque chose de ressourçant, et pas simplement de ressourçant dans la tête, mais de ressourçant dans l'élan, dans le cœur. Il y a une fraternité. On est heureux d'être ensemble. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a des rassemblements. Un pèlerinage à tel endroit, il y a une grotte, un pèlerinage. Là, tu vois, le samedi matin, des dames tout habillées en blanc, ils s'en vont vers un pèlerinage. Bon, il y a un autobus qui va venir les chercher. Et les gens aiment ça. Parce que ça les sent sur Jésus. Ils chantent, ils prient ensemble. Ils prient. Congrès charismatique là-bas. Congrès charismatique, ça rassemble près de 60 000 personnes. T'as des gens des États-Unis, du Canada, qui viennent aux États, en Haïti pour participer au congrès charismatique. Et c'est charismatique, vraiment. Ça ressemble beaucoup aux pentecôtistes. Aussi, ils vont chanter avec les bras en l'air, mais ça ne fait rien. Il y a une ferveur, là. Et à un moment donné, dans le congrès, celui qui allait, il dit, bon, ben maintenant, est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, qui ne sont pas des catholiques? Puis est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, 10 000 personnes qui lèvent leur main. C'est des pentecôtistes, des évangélistes, qui viennent participer au congrès charismatique, prier avec les catholiques. C'est le même Esprit Saint. Je trouve ça... Je trouve ça, je dirais, une réalité qu'on a pu ici. Bon, je suis très heureux d'entendre Maria, qui disait, au fond, qu'elle a participé à la neuvaine de Sainte-Anne. L'église était pleine. On avait avoir fait avant une publicité sur les choses difficiles des pères rédemptoristes. L'église était pleine. C'est un peu comme si c'était, je dirais pas une revanche, mais pour affirmer notre affirmation, l'affirmation des gens qui viennent prier ensemble. C'est un peu la même chose, là-bas. Mais, je dirais, l'église Haïti, Jean-Claude, c'est jusqu'à quelle heure?
2 heures.
2 heures, OK. L'église Haïti est belle. Elle est belle, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose, si on regarde l'histoire, l'Église d'Haïti, déjà, pendant longtemps, il y a eu des missionnaires étrangers qui venaient. Mais maintenant, les évêques, tous les évêques sont haïtiens. Ça fait comme ça depuis peut-être une quinzaine d'années. Et vous êtes au courant que le pape a surpris tout le monde en nommant un évêque haïtien cardinal. Et c'est un évêque, ça, Pape François est très surprenant, c'est un évêque d'un petit diocèse, le diocèse des Cayes. C'est un petit diocèse. Le pape aurait pu nommer l'archevêque de Port-au-Prince. Il a nommé l'évêque Monseigneur Chibli Langlois. Le plus jeune parmi les évêques qui ont été faits au mois de janvier, il est plus jeune même que Monseigneur Lacroix, ici. Il a fait cardinal. Bon, il faut dire que Monseigneur Chibli avait beaucoup la confiance des autres évêques parce qu'il était président de la conférence des évêques. Parmi les plus jeunes, donc il y avait la confiance des autres évêques et c'était un bon évêque dans son diocèse. Et bon, il a été aussi demandé pour présider ou animer le comité de médiation. Il a bien fait son travail. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas lui qui avait à régler le problème. C'était les politiciens, au total 30 personnes qui n'ont pas réussi à s'entendre. Tous les évêques sont haïtiens. Tous les prêtres diocésains, disons tous les prêtres, parce que les diocèses ont été capables d'organiser des séminaires, des grands séminaires, puis actuellement, un grand séminaire, tu as peut-être dans un séminaire de philosophie, c'est-à-dire une durée de 2 ans, tu as peut-être 120 séminaristes, et pour le séminaire de théologie, c'est sur un cours de 4 ans, c'est peut-être 150 séminaristes. Et au cours des années, il y a des ordinations, un grand nombre d'ordinations qui est fait. Puis là aussi, c'est des Haïtiens. Mais même dans les communautés religieuses, comme les Jésuites, comme les Sainte-Croix, comme les Oblats, et les communautés de femmes aussi, ben, ça a été fondé un grand nombre. Parfois, ça a été fondé il y a 100 ans. Parfois, beaucoup ont commencé il y a 50 ans, 60 ans, dans les années 1950. Beaucoup venaient du Québec. Mais maintenant, donc, ils ont ouvert des communautés, ils ont fait des noviciats. Et puis maintenant, ce qui était une communauté au début, pendant longtemps, majorité canadienne ou française, maintenant c'est presque exclusivement haïtien, avec des supérieurs haïtiens. Donc, il y a eu une période de formation qui a construit l'Église haïtienne dans les séminaires et dans les communautés religieuses. C'est beau, ça. Ce qui arrive aussi, puis c'est comme ça dans la communauté des jésuites, ben, le nombre de jésuites haïtiens qui sont nés en Haïti, pour les jésuites maintenant, c'est de 56. Alors que le nombre de Canadiens au Canada, qui sont nés au Canada, c'est 80. Puis notre nombre est appelé à descendre. Tandis que les Haïtiens, c'est 56. Bon, évidemment, c'est des jeunes, c'est dans 10 ou 15 ans qu'ils vont être capables d'être prêtres et enseigner. Mais c'est des prêtres, un grand nombre de prêtres. Donc, cette réalité de l'Église haïtienne, elle est belle. Puis, bon, ben, je vous ai parlé un peu des liturgies qui me rejoignent beaucoup. Mais ce qui est encore plus beau pour moi, c'est le peuple haïtien. Ceux qui participent à toutes ces réalités et qui sont ressourcés par ces climats de prière, ces climats de fraternité, de soutien, ça, je trouve ça beau, ce peuple-là. Parce qu'ils vivent des choses pas faciles. La pauvreté, pas de travail. Mais quand je rencontre les gens que j'aide à cause des bienfaiteurs, quand je rencontre ces gens-là, leur témoignage est toujours le même. « Ah ben, Dieu y est là. » Évidemment, moi je leur dis, ben, en échange, vous recevez un peu des dons, ça vous permet d'envoyer les enfants à l'école. Mais n'oubliez pas de prier pour les bienfaiteurs. Ah oui, on le fait toujours et puis on prie toujours pour les bienfaiteurs. Il y a une petite famille, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai rencontrée. C'est la grand-maman qui venait avec ses 2 petites filles. À ce moment-là, il y avait 8 ans, 9 ans. Et puis la grand-maman, je l'avais rencontrée. Elle venait souvent quêter des choses. Puis bon, elle vient frapper à la porte, et puis bon, ben. Et puis, bon, je vais là, et puis, avec les 2 petites filles, elle dit aux petites filles, allez, les petites filles, vont vers moi, sautent sur moi, puis m'embrassent. Tu sais, de 8 ans, devant, ben là, on reste pas insensible à ça, hein. Et puis, ben, la maman, au fond, avait été blessée dans le tremblement de terre, et c'est la grand-maman qui prenait la relève des enfants. Et puis, bon, l'année suivante, elle est revenue avec ses petites filles qui avaient grandi. Et puis, cette année, la grand-maman n'était pas là parce qu'elle était malade. C'est les petites filles qui venaient. Et bon, là, j'ai eu plus de contact avec les petites filles. Puis là, je pose des questions. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes allé à l'école? Et puis, qu'est-ce que vous avez eu? Alors, français. Puis là, le mathématique. Bon, c'est bien. C'est des phrases simples. Hein? Au moins, ils comprennent les questions. Et puis, à un moment donné, les fins de semaine, ben, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, on est allé à la messe. Ah oui, vous êtes allé à la messe. Qu'est-ce que vous avez fait à la messe? Ben, on a prié. Ah, vous avez prié. Et puis, ben là, est-ce que vous avez prié pour des bienfaiteurs? Puis là, je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était les bienfaiteurs. Si eux autres recevaient un peu d'argent, c'est parce qu'il y avait des gens au Canada qui donnaient de l'argent. Donc, il fallait remercier le bon Dieu pour les bienfaiteurs qui étaient là. Évidemment, chaque fois que je les rencontrais, les fins de semaine, je posais la question, puis vous avez prié pour qui? Les bienfaiteurs, hein, qu'est-ce que c'est un bienfaiteur? Ben, le bienfaiteur. Je pose toujours des questions en français. Parce que c'est important. Ils sont à l'école, maintenant, ils sont en 5e année. C'est important de parler avec eux autres en français, parce que souvent, même si officiellement à l'école c'est français, souvent les professeurs sont mal habiles en français, les enfants comprennent mal. Fait que pour que les enfants comprennent bien, ils passent au créole. Mais je peux vous dire qu'il y a un lien, et ça je trouve très attachant aussi, ce lien entre une solidarité entre les gens d'ici et les gens de là-bas. Je n'ai pas donné le nom de bienfaiteurs. là-bas, à personne. Je ne le ferai pas. Ça, les bienfaiteurs vont toujours être, par rapport aux gens de là-bas, des personnes anonymes. Mais des bienfaiteurs. Et c'est la même chose ici. Je ne donne pas beaucoup de précisions sur les personnes que j'aime là-bas, pour qu'au fond, il y ait une sorte d'anonymat. Mais dans les lettres, parfois, à l'occasion, je le mentionne, et je le mentionne parce que je suis capable de le mentionner. Ça ne prive pas de... Il y a un certain respect qu'il a. Mais je trouve ça extraordinaire que des gens d'ici pensent à des gens de là-bas, dans les prières, et donnent aussi de l'argent. Une sorte de communion des saints, mais effective. Et les gens là-bas savent qu'il y a des gens au Canada qui ont pensé à eux et qui vont donner l'argent. Il y a une sorte de communion, pour moi, d'une grande valeur. Juste pour vous donner un parallèle un peu différent avec... Il y avait un jésuite qui enseignait, qui avait fait une liturgie de la Semaine Sainte, et il avait trouvé qu'au fond, c'était étonnant comment la grande liturgie de la Semaine Sainte, c'était le Vendredi Saint, avec le chemin de croix. Puis que le jour de Pâques, il n'y avait pas beaucoup de joie. Et puis, il en avait parlé avec des gens, des amis en Haïti, et puis les amis ont dit, on va penser à quelque chose. On va penser à donner quelque chose. Pas grand-chose. On va donner des bonbons, des petits sacs de bonbons, deux ou trois bonbons, puis avec une gourde. Une gourde, c'est à peu près deux cents. On va mettre deux gourdes dans chaque... mais des gourdes neuves, toutes reluisantes. On va donner ça comme cadeau à Pâques. Et savez-vous, quand les gens ont reçu ça, ils étaient heureux. Ils étaient heureux, pas à cause de ce qui avait été donné, mais ils étaient heureux de prendre conscience que des gens en Haïti, des gens à Port-au-Prince, plus à l'aise, avaient pensé à eux. Et c'était le signe, je dirais, ce petit cadeau-là, une pièce d'argent toute reluisante, ça a de la valeur. Pas une valeur marchande, mais une valeur affective. C'est un peu la même chose. Pour les Haïtiens, là-bas, ils prennent conscience, et je leur fais prendre conscience, qu'il y a des gens au Canada qui ne connaissent pas leur nom. Je dis un peu pourquoi c'est utilisé pour l'école, parfois aussi pour les questions de santé. Mais il y a des gens qui pensent à eux, qui sont au Canada. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de beau dans ce sens-là. Mais je reviens aussi, ça, rapidement, mais ça me paraît être important, comment ces personnes-là, beaucoup vont me dire qu'ils se ressourcent durant le temps du carême. Parce que durant le temps du carême, là, tous les vendredis, il y a un chemin de croix. Ils se retrouvent dans le chemin de croix. De la même façon qu'à Noël, Noël, c'est une fête de la naissance de Jésus. Ce n'est pas une fête de cadeaux, là-bas. Les gens me posent la question, à Noël, comment est-ce qu'ils fêtent ça? Ils fêtent ça. Ils fêtent le 25 décembre, à la naissance de Jésus, et ils fêtent la naissance de Jésus. Et les périodes avant, c'est pour préparer le cœur à la naissance de Jésus. Ce n'est pas pour une période pour acheter des cadeaux. À Noël, il n'y a pas de cadeau, sauf chez les riches, parce qu'on suit la tradition, la société de consommation. Mais chez les pauvres, ils n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais Jésus y est né dans une étable. Ça ressemble pas mal à leur manière où ils vivent, où ils sont nés. Mais ils se retrouvent dans ça. Et le petit Jésus, c'est un être fragile. C'est pas le... Noël, c'est pas la fête des enfants, en général. Ici, c'est la fête des enfants, on donne des cadeaux. Là-bas, c'est la fête de Jésus, petit, faible, fragile, et entre les mains de la Sainte Vierge et de Joseph. Je dirais, c'est la même chose qui les retient ou qui les touche au niveau du chemin de croix. Ils voient un Jésus qui qui a vécu l'angoisse, comme eux autres qui vivent l'angoisse. Ils voient Jésus qui au fond, traité injustement, comme bien souvent eux autres sont traités injustement. Ils se retrouvent dans Jésus. Ce n'est pas un personnage, c'est eux autres mêmes. Et à travers Jésus, ils trouvent une force. Tout le chemin de croix, Jésus qui tombe, Jésus qui est crucifié, Jésus qui, sur la croix, dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça va être des croyants, des chrétiens, bien souvent, ils ont ce cri-là. « Seigneur, est-ce qu'il nous a abandonnés ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, je dirais le chemin de croix et tout le Vendredi Saint, c'est pas quelque chose de banal, une célébration, c'est quelque chose qui est où ils se retrouvent eux-mêmes. Et c'est pour ça que quand ils me disent, tu sais, Jésus il est là, il va être là. Des fois, ils viennent me demander de l'argent, puis je dis, ben, j'en ai pas pour telle chose, pour les médicaments, mais j'en ai plus. J'en ai pas. Ah ben, le bon Dieu va pourvoir. Le bon Dieu va nous donner. Ça ressemble un peu à la réalité d'Abraham, hein? Dieu pourvoira. Vous vous souvenez de ça? Hein? Abraham, qui allait immoler son fils, puis son fils était là, il dit, on est là pour le sacrifice, mais où est-ce qu'il est l'agneau pour immoler? Puis au fond, Abraham savait bien que ce serait son fils qui serait immolé. Puis Abraham dit, ben, Dieu pourvoira. Dieu a pourvu. Et je dirais, pour moi, quand j'entends cette réalité, oh Dieu, il est là, il ne peut pas nous tromper, il y a une foi, je dirais, une foi malgré tout. Ils n'ont rien, puis la foi est là. Ça ressemble un peu à ce qu'on notre foi, on appelait les Anawim. Vous avez déjà entendu parler des Anawim, un petit reste de rien. Et puis, la seule référence qui peut les tenir, c'est Dieu. Qu'il n'a que Dieu comme sauveur. Qu'il n'a que Dieu comme appui. Et il me semble que c'est ça que le peuple haïtien, individuellement, vit, mais un peu collectivement. Quand ils vont faire des pèlerinages, c'est pour se ressourcer de ces choses-là, cette confiance-là. Dieu, il parle par les pauvres. Moi, je ne suis pas capable de... Des fois, les gens vont dire, « Ah oui, mais ça, c'est des gens... » Ils vont dire, « Dieu est là, mais c'est comme du bluff, là. » C'est parce que les gens d'ici, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le milieu difficile là-bas. Quand ils disent que Dieu il va soutenir, c'est qu'ils sont sûrs. Pour moi, quand j'entends ça, c'est un peu comme si j'entendais une parole sacrée que je ne suis pas capable de remettre en question. Un peu comme le pape, hein, qui entendait cette femme-là. Ben, il faut que le bon Dieu pardonne tout, sinon on n'existerait pas. Quelle profondeur de foi! Bon, c'est pour ça. Peut-être que je le dis d'une façon un peu incomplète, malhabile, mais la vraie force de l'Église d'Haïti, c'est le petit peuple. Bien sûr, les prêtres sont là, bien sûr, mais c'est les peuples, le peuple priant, les peuples qui n'ont que Dieu comme secours. Et ça, c'est vrai. Bon, alors vous voyez, j'ai commencé par quelque chose de gris, de triste. Et ce gris-là ou de triste-là est comme compensé par la lumière que je donne à la fin, que je reçois moi-même, parce que les prières, ça va affecter le bon Dieu. Il va être capable de d'ébranler le cœur de ces personnes qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas pardonner, qui ne veulent pas réconcilier. Va changer le cœur de pierre de ces personnes-là, le bon Dieu va les changer en cœur de chair. C'est l'objet des prières aussi là-bas. Donc, juste pour vous dire d'une façon rapide, là, jusqu'à quel point je suis heureux de retourner là-bas le 3 septembre. Je vais retourner là-bas dans une charge, une fonction un peu différente. J'étais supérieur d'une maison, Il y avait 10 ou 12 personnes, il y avait 4 ou 5 jeunes laïcs qui étaient chez nous pour qu'on puisse voir s'ils pouvaient rentrer au noviciat à l'été suivant. Donc, à chaque année, on a un groupe comme ça. Et puis, il y a 4 ou 5 jésuites aussi. Donc, à ce moment-là, une maison de 10 personnes. J'étais supérieur. Ça faisait 12 ans que j'étais supérieur. Et puis, j'ai demandé à mon provincial d'être déchargé de cette charge-là. Et celui qui m'a remplacé, c'est un Haïtien. Parfait. Un Haïtien plus jeune, 45 ans, parfait. C'est le temps. Il faut que je m'en aille. Il faut que je disparaisse pour que le bon Dieu ou que... C'est la parole de Jean-Baptiste, hein? Il faut que je... C'est ça, comme ça. Il faut que les jésuites canadiens diminuent pour qu'eux autres grandissent. Et j'avais aussi la fonction d'être responsable de la comptabilité, de l'administration financière. Puis je me suis aperçu, ça suppose du travail sur ordinateur, je me suis aperçu que plus ça va, plus je fais des erreurs à l'ordinateur. Et faire des erreurs en comptabilité, ça prend pas mal plus de temps pour corriger. Fait que là, j'ai demandé à mon provincial qu'il nomme aussi un Haïtien, d'ailleurs qui a été initié, que j'ai initié, pour s'occuper de toutes les questions administratives. Puis ben là, moi, je serai là pour les aider. Donc, ça va être une mission plus... une mission, on pourrait dire, déchargée de fonctions, mais une mission que je dirais, peut-être que ça va me faire plus de place pour prier. Puis vous savez, Haïti, c'est une belle place pour prier. Des fois, il fait un peu chaud, mais on est entouré de cette réalité de la foi des gens. Donc, je retourne là-bas avec un autre compagnon jésuite haïtien. On est les deux. Moi, j'ai 78 ans et lui, il a 85 ans. Il s'occupe aussi, il travaille avec les novices. 85 ans. À l'âge de 65 ans, il était professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en théologie. Et à 65 ans, il a pris sa retraite. Bah, oui, il y a quelqu'un qui lui a dit, pour ta retraite, viens en Haïti, on va peut-être... Oui, je veux aller en Haïti, mais je veux pas être professeur. OK, une bonne entente. Et puis là, il n'est pas professeur à l'université ou dans une faculté, mais il enseigne l'Écriture sainte aux novices. 20 ans, c'est sa 20e année. Bon, pour moi, je dis, ça veut dire que le Seigneur est là avec lui, certainement. Et puis, on va partir les deux ensemble. À 85 ans, il me dit, moi, je ne veux pas prendre l'avion tout seul. Il faut qu'on prenne l'avion ensemble. Bon, on va prendre l'avion ensemble le 3 janvier, le 3 septembre. Ouais. Bon, voilà. Ce que je vous demande, c'est de prier pour Haïti, parce que la communauté des jésuites haïtiens, c'est une communauté jeune, belle, pleine de vie, mais pleine de défis aussi. Parce que c'est une communauté dans un pays pauvre, dans une communauté jésuite où on a accès à beaucoup de moyens intellectuels, de moyens de sciences, d'études. C'est un défi pour les Haïtiens de rester proche du peuple haïtien. On vous inviterait de prier pour eux autres. Voilà. On a la messe tantôt? Merci. C'est une belle messe, c'est la transfiguration.